Leslie Bedos, vous publiez votre premier roman, Tomber sur la tête, chez Jean-Claude Lattès. Alors, on se souvient de La Gauchère, qui est un recueil de nouvelles. On sait de vous que vous êtes aussi journaliste, chroniqueuse ou chroniqueur, je ne sais pas comment il faut dire, dans la presse, dans la presse écrite. Alors, est-ce que ce cheminement a une raison d'être de la presse vers la nouvelle et puis le roman ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment un cheminement. Moi, j'aime m'amuser, faire des choses différentes. J'ai fait ce métier pour ça. Alors, c'est vrai que des fois, ça complique parce qu'on ne sait plus très bien où me trouver et où me mettre. Là, récemment, j'ai réalisé des films d'archives avec les bouts des autres. Je fais le film que j'ai envie de faire. C'est des films de montage et j'adore faire ça. J'ai pris des sujets faussement légers comme les vacances ou le mariage. Enfin, c'est vrai que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de faire des choses plus adulte, plus en profondeur, et ces films, voilà, ça me semble être dans cette direction-là, et les livres, c'est pareil, et la nouvelle, c'était presque une facilité pour moi, parce que les textes courts, c'est vraiment ce qui me convient là, naturellement, alors qu'un roman, je savais que ça allait être beaucoup plus compliqué, donc j'ai voulu me faire cette frayeur-là d'écrire un roman.
Alors on peut pas tout raconter du roman, sinon voilà. Hein, donc c'est un peu, ça va être un exercice un peu compliqué, mais on va essayer. On peut dire que le titre Tomber sur la tête raconte l'histoire de la narratrice principale, qui effectivement est une femme mariée, deux enfants, ados, qui viennent de quitter la maison, et elle est un peu déprimée et elle a tendance à perdre l'équilibre. Pour des tas de raisons qui apparaîtront dans le roman. Alors, votre personnage dit à un moment donné, parce qu'elle tient une sorte de journal en plus de sa thérapie, elle dit à un moment donné, écrire ne guérit de rien. Est-ce que dans votre démarche à vous d'écrivain, il y a dans le fond une volonté, un souci d'aborder cette question-là ? Qu'est-ce que écrire peut guérir ?
Oui, je pense que écrire ne guérit pas grand-chose, moi. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Voilà, on peut poser des grosses angoisses sur le papier, et c'est pas pour ça qu'on va forcément mieux après. Voilà, le côté « Ah, tu l'as dit, ça t'a fait du bien », moi, pas forcément. mais bon, et puis il y a toujours des choses qui vous échappent. Voilà, je voulais écrire un livre plus léger au départ, et puis là, c'est vrai que tout d'un coup, je me suis laissée submerger par une histoire beaucoup plus dramatique. En même temps, j'espère qu'il y a des choses drôles et qu'on sourit, parce que je pense que les gens très angoissés ont toujours quelque chose de très drôle aussi en eux, parce que pour compenser, c'est souvent ça va souvent ensemble, les angoisses et l'humour, et donc. J'espère qu'il y a les deux dans le livre. Et puis, oui, je voulais construire ça un peu comme un polar. On ne sait pas très bien ce que cette fille a. On comprend qu'elle a un problème. C'est vrai que le titre « Tomber sur la tête » n'est pas du tout hors sujet. On va le comprendre très vite. Mais voilà. Et on ne sait pas tout de suite ce qu'elle a et pourquoi elle ne va pas très bien. Et on va le comprendre au fur et à mesure. Et puis, j'avais aussi envie de parler, évidemment, de la transmission. Je trouve que c'est un thème très, très... Enfin, qui me tient beaucoup à cœur. Et quand on est à la fois fille et maman, on sait à quel point les choses, des fois, peuvent se reproduire à travers les familles. Et je trouve ça toujours passionnant.
Sur la présence d'humour, moi, j'ai plutôt eu le sentiment d'avoir une part d'extrême gravité, parce qu'il y a des moments extrêmement graves dans le destin de cette femme, de sa fille et de sa mère, mais aussi une certaine légèreté qui permet finalement de rendre discible ce qui peut-être ne l'est pas. Et c'est un peu la recherche de cette personne.
Oui, il y a de l'insupportable et du supportable. D'ailleurs, c'est une fille qui s'achète souvent des objets consolants. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est vrai que je me fous de l'argent, mais en même temps, l'argent, en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Et je me rends compte à quel point l'argent me sert à me consoler, moi. J'achète des objets un peu régressifs, des objets qui vont me mettre de bonne humeur toute la journée, qui coûtent pas forcément très cher, mais voilà, ça peut être effectivement une tasse avec une jolie couleur, des draps rayés, enfin bon, c'est des bêtises, mais ça me console des chagrins de la vie.
une compulsion pour se consoler.
Oui, et c'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Je pense que les boutiques sont pleines. C'est peut-être plus féminin, de femmes qui se consolent avec effectivement des petits achats compulsifs.
Les hommes se consolent avec des gros achats compulsifs.
Voilà, peut-être plus, oui.
Mais bon, mais, alors revenons, si vous voulez bien, à votre démarche romanesque. Vous avez évoqué, je l'ignorais, j'ai mal préparé l'interview, que vous faisiez ces documentaires à partir d'archives du quotidien. D'une certaine manière, c'est un peu la façon dont vous avez procédé pour le roman, en mélangeant la légèreté et la gravité, à partir de petits détails comme cette obsession de votre personnage, ces obsessions de votre personnage, la peur de la pauvreté, de la ruine alors qu'elle est pauvre. Oui. Tout ça, finalement, procède du même type de construction.
C'est vrai que je pense que c'est vraiment un endroit où, parce que c'est le seul où il me semble que je suis un peu logique, je suis fascinée par le montage, moi, et toujours, puisque je viens de la radio au départ, et je montais très très mal, parce que étant gauchère, je coupais le truc à l'envers, tous les techniciens étaient affolés, je leur faisais des collages, à l'époque c'était...
À l'époque on coupait les bandes magnétiques.
Voilà, on coupait les bandes magnétiques, et voilà, j'avais une façon de monter très très personnelle, qui angoissait beaucoup les vrais techniciens qui faisait ça beaucoup plus joliment que moi. Je montais des fois un peu hard, hein. Les gens respiraient pas toujours entre deux phrases, mais j'adorais ça. Bon, déjà j'avais pris goût à ça avec la radio, et puis ces films de télévision, ces films documentaires, c'est vrai que c'est le moment où, parce qu'il y a une logique du montage, et c'est le moment où tout d'un coup, voilà, on met les choses dans un sens, ça fonctionne pas, on les met dans l'autre, tout d'un coup ça devient divin. Et c'est vrai que ce livre, avec des post-it, j'ai copié ça à un écrivain qui a l'air d'écrire des romans beaucoup plus gros que moi, puisqu'il avait un mur entier dans son bureau rempli de post-it. Et je me suis dit, ben voilà, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fonctionne. Même avec ce livre qui n'est pas très, très, très épais, j'ai mis tous les chapitres avec un post-it. Et après, j'ai vu les endroits où il manquait des choses. J'ai changé les post-it de place. C'est un livre qui a été monté, en fait, comme un film. Parce que même si par moments, il a l'air décousu, il y a quand même gamberge. Comme je n'avais jamais fait de roman, je sentais bien qu'il ne fallait pas que je perde le lecteur en route, qu'il ne fallait pas que je le lâche. Et du coup, je l'ai construit effectivement un peu comme un film.
Votre personnage principal est dans un processus de thérapie. On pourrait penser que cette méthode apparemment décousue, finalement, est une manière aussi de retarder le moment où on dit le secret qui nous pèse.
C'est vrai, il y a un peu de ça. J'y avais pas pensé, mais vous avez raison. Il y a effectivement une façon de ne pas vouloir dire et d'éloigner dans ces notes qu'elle prend pour la dame qu'elle va voir régulièrement pour essayer de voir. Elle sait pourquoi elle va pas bien, mais elle voudrait essayer de s'en sortir. Du coup, le fait d'écrire, elle se dit que ça peut-être la sauver. Et c'est vrai que de parler d'autre chose retarde le moment où il va falloir qu'elle crache le morceau. Oui.
D'autant plus que votre personnage n'est pas dans la situation où la psychanalyse ou la thérapie l'aide à découvrir quelque chose. Elle connaît le secret. Son problème, elle, c'est de parvenir à l'exprimer.
Voilà, en se disant que peut-être de partager cette horreur avec quelqu'un, puisqu'il y a eu un jeu très étrange entre sa mère et elle, qu'elle reproduit avec les gens qu'elle aime. Donc elle se dit qu'effectivement, peut-être de l'exprimer haut et fort, puisque cette histoire est arrivée quand elle était toute petite, et donc comme personne n'a été témoin de cette histoire, elle n'a pas pu en parler. Ça va peut-être changer les choses et tout arranger.
On peut dire que c'est une forme de violence que sa mère a exercée sur elle quand elle était toute petite, sans dire laquelle. Mais c'est important de le savoir pour comprendre aussi la démarche de votre personnage vers sa thérapeute, mais aussi sa démarche vers elle-même. Finalement, elle a peur de sa propre éventuelle folie.
Oui, elle a peur de sa folie, elle a peur de sa violence, elle a peur... Parce que j'ai toujours aimé, moi, cette espèce de dérapage où tout d'un coup on passe d'une fille qui a des défauts charmants à une fille qui a des défauts inquiétants. Mmh. Je trouve que la limite, elle est très fragile. Et l'âge venant, en plus, les petits défauts qui étaient amusants pour les gens, tout d'un coup, ça devient plus lourd parce que, bon, on a plus de bagages les années passées. Et j'ai toujours été intéressée par ça chez les gens. La petite folie, les petites angoisses qui tout d'un coup deviennent une folie un peu plus oui, étrange, inquiétante, et puis les petites angoisses qui deviennent des grosses angoisses. Voilà, ça m'a toujours intéressé, ça, ce passage de ligne et cette frontière qui est finalement, voilà, il suffit de pas grand-chose des fois pour que ça bascule.
C'est vrai que c'est le moment le plus passionnant pour un romancier, lorsque son personnage est sur la ligne de fracture, parce que tout est possible encore.
Et c'est vrai que déjà dans La Gauchère, j'évoquais ça, des gens qui étaient un peu borderline, qui étaient fragiles, c'est vrai que les gens fragiles, les gens qui sont pas pleins de certitudes, qui ont des doutes, sont toujours beaucoup plus intéressants. Et puis même dans la vie, moi, il faut pas trop, ça peut être pénible, mais un peu de doute, c'est effectivement toujours charmant et attachant.
Alors vous avez créé des personnages qui sont essentiellement féminins. Il y a le personnage central, la narratrice, sa mère, qui est un personnage assez en même temps tragique, bouleversant et cruel. C'est une personne qui s'autodétruit en quelque sorte.
Oui, mais parce que oui, je pense que elle aime sa fille et en même temps elle lui fait le pire, elle lui fait vivre le pire. Et voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un de destructeur et je pense qu'elle a aucune envie de faire du mal elle aussi aux gens qu'elle aime. C'est vraiment quelque chose. Il y a une malédiction féminine qui va de mère en fille dans cette famille. Et il y a cette comédienne qui s'appelle Isilde Lebesco qui a dit un truc très joli. Elle a dit qu'elle voulait pas faire de filles en premier parce que elle dit c'est les femmes qui amènent le tourment des familles. Alors je sais pas si ça se vérifie toujours, mais j'ai trouvé que cette phrase en tout cas elle est très bien au livre. C'est vrai que là c'est les femmes qui amènent le tourment dans les familles. Et moi j'avais des femmes dans ma famille assez angoissées. Je pense que je suis plus à l'aise aussi avec les personnages féminins étant, je crois, une fille, je suis pas toujours sûre, une femme. Voilà, je connais moins les hommes. J'en ai un, j'ai même un garçon, j'ai un fils, mais je comprends moins comment les garçons fonctionnent. Mon fils peut, par moments, être assez brutal, me balader, m'envoyer paître. Et j'ai choisi, par contre, un mari assez féminin, enfin qui a les deux. Moi, je pense que j'ai un côté aussi très masculin. Donc, du coup, ça fonctionne bien. On est les deux, tous les deux. Donc, cet homme-là, je le comprends assez parce qu'il est assez féminin. Mais quand ça s'éloigne du féminin, j'ai du mal. Je comprends moins.
Vous avez une manière extraordinaire de décrire la peur. Parce que votre personnage dit à un moment donné, dans toutes les peurs qu'elle a, sa peur principale, c'est aussi d'avoir peur. Comment est venue cette manière de raconter la peur? D'où est venu, chez la romancière que vous êtes, le fait d'inventer un personnage où tout tourne autour de la peur? On pourrait dire que c'est un roman sur la peur, presque la peur panique parfois.
Oui, parce que je pense que c'est un truc que j'ai vécu. J'avais pas peur avant. C'est-à-dire que j'ai toujours été très angoissée, mais j'avais pas peur. Du coup, j'osais tout, je faisais tout, je réfléchissais pas toujours avant de faire des choses. Alors, je faisais des conneries, mais en même temps, bon, voilà, c'était très gai, très libre. Et puis, récemment, peut-être parce qu'il m'est arrivé aussi des choses plus dures, voilà, je me suis mis à avoir peur de conneries et cette histoire de dame qui demande 15 fois si elle est bien dans le bon train. Tout à coup, je me suis mise à faire des trucs de vieille, angoissée, enfin bon, à tout vérifier. C'est vrai que petite, je vérifiais si le gaz était bien éteint. Bon, j'ai toujours eu un peu ça, mais il me semblait que j'avais quand même... voilà, je me foutais un peu de tout, et voilà. Puis... voilà, récemment, je me suis un peu moins foutu des choses, j'ai eu un peu plus peur des trucs. Je pense aussi que les enfants, sans doute, m'ont fragilisé. Et je trouve que les enfants qui grandissent presque font plus peur que les enfants petits. Voilà. Et du coup, je trouve que la peur, ça rend laid, ça rapetisse, ça vous rend moins créatif. Enfin, pour moi, c'est grave, la peur. Ça vous fait rétrécir. Du coup, je voulais parler de ça parce que je trouve que effectivement, quand la peur s'installe dans votre vie, alors c'est pas tellement la peur de l'autre. Hein, la peur de l'autre, c'est aussi quelque chose de très grave. Voilà, et c'est vrai qu'on voit ça politiquement dans toute l'Europe. Voilà, les gens qui Et je trouve ça laid, la peur. Et peut-être c'est parce que j'aime pas ça chez moi, quand ça s'installe chez moi. Je voulais en parler parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai connu récemment et que j'ai envie de voir foutre le camp, quoi. Je n'aime pas ça chez moi, j'aime pas ça chez les autres. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je suis contente si j'en parle pas trop mal.
Ah non, ce sont des passages éminemment émouvants. Et enfin, à nouveau, comme il y a ce partage toujours de la gravité, de la légèreté qui est finalement une forme de pudeur. À un moment donné, on se dit, on va trop loin dans l'émotion, donc on se retire un peu. Mais c'est pour mieux frapper juste après, me semble-t-il.
Oui, mais j'aime bien le mélange de chaud, froid, de passer du rire aux larmes. C'est toujours ce que j'ai préféré dans la vie. J'adore pleurer en riant, moi.
On dit parfois de la littérature de fiction, des romans, des nouvelles, qu'elle permet au lecteur parfois de se sentir moins seul face à sa propre solitude ou à sa tragédie, parce que quelqu'un d'autre a mis des mots sur ce qu'il ressent, lui, lecteur. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut observer chez une romancière, chez l'auteur ?
C'est-à-dire ?
Le fait d'écrire fait que l'auteur se sent moins seul parce qu'il est parvenu à dire en mots ce qu'il vit, ce qu'il a vécu.
On se sent moins seul peut-être par rapport à soi-même même, parce que je sais pas si c'était vraiment la question, mais j'ai lu récemment cette phrase que quand on écrit un livre, en fait, on s'écrit. Mmh. On s'écrit à soi. On s'écrit à soi. Je parle plus français, moi. Mais
vous insistez, on s'écrit à soi-même. Voilà, c'est une insistance, il n'y a pas de problème.
Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, évidemment, quand ça se partage et qu'on se rend compte qu'on a touché juste et que ça a une résonance chez les lecteurs et les gens qui viennent vous en parler. Je suis plus fragile avec celui-là, parce que la gauchère, il y a eu un truc qui est parti très vite, parce qu'il y a eu tout de suite des grosses télés, et voilà, et les gens sont un peu suiveurs, malheureusement, et du coup, si on leur dit 14 fois de suite, c'est bien, allez l'acheter, ils ont peur de se tromper, souvent, alors bon, bref, du coup, les gens étaient plus là qu'avec celui-là qui a démarré de façon plus confidentielle. Et alors que ceux qui l'ont lu et qui ont lu les deux, la gauchère, ils ont un peu la sensation que j'ai passé une marche au-dessus. Donc du coup, j'ai envie que celui-là, il soit aussi partagé que la gauchère et qu'il y ait autant de monde et même plus. Et je sens que ça va être plus dur, que les choses arrivent plus doucement.
Ça va peut-être être plus dur parce que vous touchez des sujets comme la peur, aussi comme l'enfance, qui sont des sujets dans lesquels il faut donner du temps au temps. Il faut s'imprégner d'un roman comme celui-là, peut-être davantage que de nouvelles où le côté léger peut être prépondérant par rapport à la gravité des choses.
Mais pourtant, dans la gauchère, il y avait déjà tout ça. Je pense qu'effectivement, j'ai des obsessions qui reviennent. Je parle toujours de vélo, je parle toujours de gens qui vont pas très bien. La mort, elle est toujours un peu là. Il y a effectivement l'enfance, les mères inquiétantes. Enfin, il y a des choses qui reviennent chez moi, qui sont assez, qui m'obsèdent sans doute. Et donc, même dans la gauchère, il y avait une gravité. Et puis, je pense que, la gravité dans le drôle je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour être partagé aussi dans celui-là.
La difficulté peut-être avec ce roman-ci, pour en dire tout le bien, en tout cas moi j'en pense, c'est qu'il est impossible d'en parler sans en dévoiler ce qui en fait l'intrigue et d'une certaine manière la force. Et on ne va pas le dévoiler, on va laisser au lecteur le soin de le découvrir. En tout cas, Leslie Bedos, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce très très émouvant roman, très beau roman qui mérite d'être lu. Je ne sais pas s'il mérite plus de lecteurs que La Gauchère, certainement 1000 fois plus, mais en tout cas, j'en rappelle le titre, Tomber sur la tête. C'est un roman paru chez Jean-Claude Lattès. Merci Leslie Bedos.
Merci beaucoup.